France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Féminicide. La première fois que vous avez entendu ce terme, vous avez peut-être bondi. Pourquoi le meurtre d'une femme ne serait-elle pas tout simplement un meurtre? Ou peut-être avez-vous acquiescé? Évidemment, il fallait désigner le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. Désormais, ce terme s'est en tout cas imposé. Mais si le terme est récent, sa réalité beaucoup moins. À quand remonte-t-elle et quelle forme a-t-elle pris à travers les siècles et les continents? Pourquoi le féminicide est-il une constante de l'histoire et pas seulement un mot dans l'air du temps?
Rejoignez-moi pour prévenir la violence, pour éduquer l'opinion publique et pour que soient mis en place des programmes qui offrent des services essentiels aux victimes et aux rescapés des violences. Rejoignez-moi aujourd'hui et tous les jours pour dire non. Non à la discrimination et à la violence envers les femmes et les filles. Non à la violence domestique et à la maltraitance. Non au viol et aux violences sexuelles. Non à la traite des êtres humains et à l'esclavage sexuel. Non aux mutilations génitales féminines. Non aux meurtres commis au nom de l'honneur ou de la passion. Non au féminicide. Non à la impunité. Mais disons ensemble, oui à la paix. Au droit de la personne, à la justice et à l'égalité.
Bonjour Christelle Tarot.
Bonjour.
Vous êtes historienne, vous enseignez dans les programmes parisiens de Columbia et de New York University. Vous êtes membre associé au Centre d'Histoire des 19e siècle des universités de Paris 1 et 4. Et vous avez dirigé l'ouvrage collectif « Féminicide, une histoire mondiale » paru aux éditions La Découverte en cette rentrée. C'est un ouvrage massif, important, avec plusieurs historiennes du monde entier. On pourra mettre leurs noms sur le site, je pourrais en citer quelques noms à la fin de l'émission. Alors on a entendu la voix de Michèle Bachelet, c'était le 5 mars 2013. Michèle Bachelet était alors directrice exécutive de l'ONU Femmes et elle utilise ce terme de féminicide. Est-ce qu'on peut dire que c'est à peu près dans les années 2010 que ce terme de féminicide s'est imposé dans le débat public, dans l'espace public, notamment à travers des discours politiques?
Alors effectivement, après MeToo, le terme s'est généralisé de manière très importante, même s'il préexiste, bien sûr, à cette époque. On va peut-être discuter effectivement dans cette émission de l'apparition du concept, parce que c'est évidemment très important.
Qui n'est pas seulement qu'un mot, il faut le dire. Voilà,
non,
un concept qui est en jeu.
Absolument. Il s'agit de concepts qui ont été forgés par des chercheuses, qui peuvent être aussi d'ailleurs des militantes féministes. Mais effectivement, on voit que au fur et à mesure de ce travail, qui est en même temps académique et politique, le terme s'impose non seulement dans le débat public national, en fait, dans de très nombreux pays, en fait, on questionne cette question des féminicides, mais évidemment dans le débat planétaire, d'où l'importance effectivement qu'il soit repris par la directrice de l'ONU Femmes, parce que c'est une grande structure évidemment qui œuvre pour évidemment éradiquer les violences faites aux femmes, puisque c'est son objectif premier, évidemment.
Alors si j'insiste sur l'apparition de ce terme, c'est pour dire aussi que ce terme non seulement, vous l'avez dit, Christelle Tarot n'est pas seulement un terme, mais un concept qui a été forgé par des chercheurs, des chercheuses, mais aussi une réalité. Alors voilà, le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme, le terme, le concept ont beau être récents, la réalité est beaucoup plus longue, beaucoup plus vieille que ça. Est-ce que c'est ce que vous avez tenté de démontrer dans cet ouvrage collectif ?
Absolument, et je crois que c'est très intéressant de commencer précisément par la définition des termes et leur recontextualisation. Parce que souvent, on utilise dans nos sociétés des termes dont on ne connaît pas du tout l'origine, et cette origine, évidemment, a du sens. Donc, en France, nous utilisons le terme féminicide pour désigner le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme, en général par un partenaire intime. Cette définition n'est pas adaptée, en fait, à cette réalité, parce que cette réalité est définie par un autre concept, qui est le concept de fémicide, qui est né en fait très tôt dans l'histoire contemporaine, puisqu'il est associé au mouvement de libération des femmes des années 70, et qu'il a émergé pour la première fois dans le débat académique et politique au sein du premier tribunal international, tribunal populaire organisé par les femmes, contre les crimes, évidemment dirigés contre elles. Tribunal qui se réunit à Bruxelles en 1976, où se retrouvent des femmes de 40 pays et qui vont travailler en fait sur tous les crimes commis contre les femmes. Et dans le cadre de ce tribunal, une chercheuse qui vit aux États-Unis et qui est d'origine sud-africaine, qui s'appelle Diana Russell, va utiliser pour la première fois ce concept de fémicide. Et lorsqu'elle évoque ce concept de fémicide, elle le connecte à des travaux qu'elle est en train de mener, elle, c'est une sociologue, sur la question des violences domestiques. Mmh. Et elle rappelle effectivement que le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme n'existe pas dans le droit, parce que évidemment ce meurtre est assimilé à la catégorie des homicides et donc il est noyé dedans. Et elle dit, tant qu'un crime n'existe pas, tant qu'il n'est pas nommé, il n'existe pas. Donc il faut nommer le crime, et pour nommer le crime, elle invente, elle forge dans une conversation collective le concept de fémicide. Et pendant 20 ans, on travaille évidemment avec ce concept. Et puis, dans les années 90, dans une autre partie du monde, nous ne sommes plus en Europe à Bruxelles, mais nous sommes à Ciudad Juárez au Mexique, on commence à découvrir, parce qu'on cherche des femmes disparues, on commence à découvrir des cadavres de femmes de manière assez importante, des dizaines, puis des centaines, puis des milliers, sur évidemment une période un peu plus longue, hein, sur l'ensemble des années 90 et le début des années 2000. Et là encore, face aux crimes inouïs en fait, qu'on découvre à cette occasion, dans une conversation encore une fois collective, une autre chercheuse qui s'appelle Marcela Lagarde de los Ríos, qui d'ailleurs est aussi une très grande femme politique, décide, pour rendre intelligible ce qui est en train de se passer au Mexique, sur l'ensemble de la zone frontière entre les États-Unis et le Mexique, mais donc en particulier à Ciudad Juárez, pour rendre intelligible, donner sens à un non-sens absolu, elle forge un nouveau concept qui est le concept de féminicide. Et le féminicide, c'est autre chose que le fémicide.
Il y a l'idée de meurtre de masse dans féminicide.
C'est un crime d'abord collectif et pas un crime individuel. Donc c'est un crime qui intéresse toute la société. C'est un crime de masse parce que on est bien au-delà des 10 meurtres qui constituent un crime de masse. Donc c'est un crime vraiment très très important, comme je le disais. C'est un crime d'État. Parce que toutes les structures de l'État...
Et puis on n'est plus seulement dans la sphère intime, c'est ça aussi.
Non, bien sûr. Voilà. C'est un crime d'État. C'est donc parce qu'une partie non négligeable des structures et des institutions de l'État participent d'une manière ou d'une autre, plus ou moins officiellement, à la chose. Et enfin, elle nous dit que c'est un crime à tendance génocidaire, parce qu'il ne s'agit pas seulement de tuer des corps physiques, mais de tuer tout ce qui constitue les femmes en tant que femmes, c'est-à-dire les femmes en tant qu'identité, en tant que peuple et même en tant qu'univers. Et elle le dit parce que lorsqu'on exhume les cadavres de jeunes filles sur toute la zone frontalière entre le Mexique et les États-Unis, on s'aperçoit qu'elles sont pas seulement tuées, mais surtuées.
Et ça veut dire quoi, surtuées ?
Alors, le surmeurtre, ça sous-entend qu'on ne se contente pas de tuer quelqu'un, par exemple en l'étranglant, ou par une arme à feu, mais on va lui faire subir toute une série de violences pré- ou post-mortem. Bien sûr, des violences sexuelles, des mutilations, souvent sexuelles, des démembrements, et toutes sortes de profanations du corps, par exemple brûler partiellement le corps, etc. Et tout ça se passe soit avant la mort, soit après la mort. Et donc cet acharnement sur les corps de femmes montre évidemment qu'il ne s'agit pas seulement de tuer, mais d'anéantir, de détruire. Et ça qualifie clairement en fait le crime évidemment de génocide.
Alors, il y a plusieurs mots qui sont apparus dans l'histoire pour qualifier les meurtres d'une femme. Il y a l'uxoricide, le meurtre d'une épouse par son mari, créé par l'empereur romain Auguste. Il y a le conjugicide, c'est ça ?
Conjugicide.
Conjugicide, voilà, violence intrafamiliale jusqu'au début du 19e siècle. Le génocide, qui qualifie la chasse aux sorcières du 17e siècle. Ou sexocide aussi, le gendercide, meurtre visant le féminin. Et donc, vous l'avez dit, Christelle Tarot, le fémicide et le féminicide. Donc, ce terme de féminicide a été conservé. Pourquoi celui-ci, finalement, plutôt que... alors les autres dénotent des réalités très spécifiques peut-être, mais fémicide après tout. Pourquoi pas fémicide ?
Fémicide, ça existe toujours et on l'utilise dans de très nombreux concepts, dans de très nombreux contextes, pardon. En réalité, les deux termes coexistent et ils coexistent souvent en ayant finalement acquis, en tout cas dans nos sociétés européennes, le même sens. Parce que, par exemple, en Norvège, pour qualifier le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme en général par un partenaire intime, on va utiliser le terme fémicide. Et en France, on va utiliser le terme de féminicide. Alors, ça, c'est toujours un peu nébuleux de savoir pourquoi est-ce qu'à un moment, dans une société, c'est un terme qui va s'imposer par rapport à d'autres termes qui existent. Mais je crois que on doit l'accepter. Maintenant, c'est le féminicide qui est devenu majoritaire dans la perception de ce crime dans notre pays. Mais j'insiste sur le fait que ce terme veut dire autre chose dans son contexte de création. Et ça me semble être important de le préciser.
Et puis, il faut revenir aussi sur la réalité. Que désigne ce terme de féminicide ? Alors, vous l'avez dit, il y a un ensemble en fait, d'actes que désigne le féminicide. Est-ce que ça désigne uniquement, en tout cas, le meurtre d'une femme parce que c'est une femme ?
Alors, dans le contexte de la France contemporaine, oui.
Mais moi, votre plume, dans votre travail.
Ah non, moi non,
concept.
Évidemment, voilà. Évidemment, parce que je me rends compte assez vite que, en réalité, aucun des termes que vous avez cités qui sont utilisés dans le livre, évidemment, puisque chaque auteur et chaque autrice a tout à fait le droit d'utiliser le terme qui lui paraît le plus approprié à la réalité sur lequel il ou elle travaille. Et comme évidemment le livre a une densité chronologique extraordinaire, évidemment. Certains historiens ou certaines historiennes, par exemple, préfèrent utiliser le terme gynécide ou conjugicide. Et bien sûr, moi, je leur ai laissé toute liberté pour employer les termes qu'ils jugent appropriés, encore une fois, à leur terrain. Mais moi, quand j'ai commencé à travailler sur cette question, donc, pour construire le livre dans sa globalité, il m'est apparu assez rapidement, en fait, qu'aucun de ces termes n'est suffisamment large pour inclure tout ce qui constitue pour moi un crime féminicidaire. C'est pourquoi on a décidé de forger, là encore dans une conversation collective, un nouveau concept qui est donc le concept de continuum féminicidaire. Moi, en théorie, j'aurais beaucoup aimé que ce soit le titre du livre, mais vous comprenez bien que...
C'est moins parlant en termes d'édition.
Ah bah oui, c'est moins parlant parce que, encore une fois, c'est le terme de féminicide qui s'impose dans la société française. Mais le féminicide est inclus dans le continuum féminicidaire, mais ne le résume pas.
Donc le féminicide, à savoir donc le meurtre d'une femme parce que c'est une femme, est presque l'apogée, on va dire, d'un continuum féminicidaire, c'est
Absolument.
Ça.
Donc il est inclus à l'intérieur.
Mais il n'est pas réductible à ça. Le continuum féminicidaire dénonce un ensemble de réalités dont le féminicide va être
le point d'acmé. Le point d'acmé, absolument. Et donc, dans le continuum féminicidaire, il y a le fémicide et le féminicide. Mais le continuum féminicidaire, c'est beaucoup plus large. De quoi s'agit-il ? Parce que c'est une expression académique qui peut sembler peu claire. En réalité, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est le continuum féminicidaire ? C'est toutes les violences qui sont faites aux femmes de la naissance à la mort et qui peuvent être les plus évidentes et les plus brutales, comme par exemple le meurtre ou l'assassinat, ou finalement les plus banalisés, les plus incorporés, les plus symboliques, voire même les plus épistémiques. On pourra peut-être discuter sur tous ces aspects un peu plus tard. Et donc, c'est un spectre qui doit être pensé dans une dynamique. Ça ne veut pas dire, évidemment, et heureusement, pourrait-on dire, que toutes les femmes vont rencontrer l'ensemble de la gamme qui constitue le continuum féminicidaire. Mais il y a fort à parier quand même que chaque femme, quel que soit l'endroit où elle vit sur cette planète, rencontrera au moins quelques aspects de ce continuum, et certaines expériences sont souvent extrêmement largement partagées. Si on pense par exemple au harcèlement de rue, moi j'ai constaté dans le livre, en travaillant là-dessus, que c'était quand même une expérience assez universelle, étant entendu bien sûr qu'il faut pour ça que les femmes puissent investir l'espace public, où elles ne sont d'ailleurs souvent encore que tolérées, y compris chez nous. Ce qui peut paraître assez incroyable.
Alors, je cite plusieurs actes de ce continuum féminicidaire, le dressage à la féminité, le traitement différencié dans la langue, les discriminations économiques, le harcèlement sexuel, les mutilations corporelles et sexuelles, les mariages précoces et ou forcés, les maternités obligatoires ou empêchées, l'humour sexiste, la pornographie, l'esclavage sexuel, le viol, donc jusqu'au féminicide. Vous étudiez cet ensemble d'actes. Est-ce que dans l'idée de continuum, il faut aussi entendre l'idée d'une hiérarchie?
Alors ça, c'est très intéressant. Ça renvoie en fait à un autre travail qui a été fondateur en fait pour forger le concept de continuum féministère, qui est le travail de Liz Kelly, qui est une sociologue britannique qui, dans les années 80, travaille sur la question des violences domestiques et sexuelles, essentiellement sexuelles d'ailleurs. Et elle est très étonnée en fait de s'apercevoir que, par exemple, en travaillant sur le viol et en évidemment creusant les trajectoires, les biographies des femmes avec qui elle converse sur ces questions-là, eh bien, elle s'aperçoit en fait que les violences sexuelles, et ça va jusqu'au viol évidemment, qui est un crime, en tout cas en France, eh bien, sont le produit en fait de plusieurs épisodes. Ces épisodes sont répartis dans la vie des femmes sans qu'elles ne les connectent ensemble, souvent les uns avec les autres, parce que pour des raisons parfois de survie psychologique, les femmes cloisonnent en fait les violences qu'elles subissent.
Ou d'intériorisation des normes.
Intériorisation des normes, mais là, en l'occurrence, le viol n'est pas une norme acceptée.
Non, mais je parle par exemple du dressage à la féminité ou des discriminations économiques. On peut se dire que c'est comme ça et qu'on ne pas l'interroger.
Ah, bien sûr, mais là, je parle vraiment du travail de Liz Kelly qui porte vraiment sur les violences sexuelles. Mmh. Et donc, les violences sexuelles qui peuvent aller, ou les crimes sexuels qui peuvent aller, bien sûr, de l'inceste à l'agression sexuelle, au viol, etc. Et donc, elle s'aperçoit en fait qu'il y a au harcèlement de rue, enfin plein de choses. Et donc, elle s'aperçoit en fait que la grande majorité des femmes avec qui elle travaille ont connu plusieurs épisodes de violence de ce type, mais qu'elles ne les connectent pas évidemment entre eux, qu'elles les cloisonnent et que elles ont une hiérarchie personnelle. Et ça, je crois que c'est vraiment important parce que en réalité, en travaillant Liz Kelly avec ces femmes, elle se rend compte en fait que la hiérarchie que elle produirait peut-être en tant que sociologue, c'est pas la hiérarchie que produisent éventuellement les femmes. Et donc elle décide de penser ces violences plutôt comme comme une dynamique, comme un flux, plutôt que de les hiérarchiser en disant bah ça c'est plus important que ça, parce que évidemment on peut imaginer que le harcèlement sexuel dans la rue c'est moins entre guillemets moins grave que le viol.
Mais il y a une continuité.
Absolument. Un, il y a une continuité, et deux, elle écoute la hiérarchie des femmes. C'est-à-dire qu'elle, au lieu de plaquer une hiérarchie sur la vie des femmes, sur l'expérience des femmes, elle écoute comment est-ce que les femmes elles-mêmes hiérarchisent en fait ces questions. Et ça, je trouve que c'est assez évidemment intéressant, même si on en conviendra assez aisément, tuer une femme, c'est plus grave que la siffler dans la rue, ou même de la traiter de salope ou de pute, ce qui arrive quand même très régulièrement dans les interactions. relations de rue entre les hommes et les femmes.
Oui, mais c'est intéressant de parler de continuité ou de continuum parce qu'on voit bien non seulement effectivement cette idée de flux, mais aussi cette différence de degré et pas de nature forcément entre les axes. Ça veut dire que tout ça s'inscrit dans un même système et j'emploie le terme à dessein parce qu'on parle beaucoup de système patriarcal. Vous parlez aussi, vous, de violence systémique, systématique. Et j'aimerais qu'on revienne sur ce terme pour bien comprendre en fait ce que ça veut dire le fait que ce soit un système.
Bah, c'est un système à partir du moment où c'est incorporé, évidemment, et que ça constitue un élément moteur de la vie individuelle et collective dans une société. Et donc, le continuum féminicidaire, il permet d'éclairer que presque à tous les moments de notre vie, nous subissons en fait, des violences qui peuvent être, encore une fois, très évidentes, qui peuvent être totalement déniées, qui peuvent être si banalement incorporées qu'on ne s'en aperçoit même pas nous-mêmes, y compris les femmes, évidemment, mais que tout ça, en fait, participe d'un système d'écrasement des femmes, parce que c'est ça dont il s'agit, un système d'écrasement des femmes et du féminin qui remonte à si longtemps, en fait, que nous avons presque oublier que ce n'était pas un fait de nature, mais un fait de culture. Et que donc nous avons construit en tant qu'espèce ce système d'écrasement. Quand je dis « on », évidemment, ce sont plutôt les dominants, mais d'une certaine manière aussi, parce qu'elles sont banalisées et parce que les femmes sont souvent silenciées aussi par rapport à ces violences. Il n'y a que depuis peu de temps qu'on écoute vraiment les femmes et qu'on les croit. Donc, on constate que ça fait aussi système pour de très nombreuses femmes. Et aussi parce que, encore une fois, dans un système patriarcal, les femmes sont aussi parfois, pour des questions de survie, pour avoir leur place, de travailler à l'intérieur du système, puisqu'elles ne peuvent pas être, évidemment, en dehors, encore moins, bien sûr, l'éradiquer.
Mais alors j'aimerais quand même qu'on précise quelque chose, Christelle Tarot, parce que le titre de cette émission, c'est « Féminicide, pourquoi les hommes ont-ils toujours tué les femmes ?» Ça nous permet d'éclairer ce terme de systémique. Ce qui est systémique est-il forcément systématique ? Est-ce que tous les hommes ont-ils toujours tué toutes les femmes ?
Bien sûr que non, absolument pas.
Voilà, donc éclaircissons cette question.
C'est systémique parce que face à des systèmes hiérarchiques qui sont accaparés par les hommes très tôt dans l'histoire de l'humanité, on va avoir en fait deux types d'actions dirigées contre les femmes, des systèmes coercitifs, qui sont des systèmes de domestication, de dressage, à une certaine forme de féminité. Si vous dérogez pas en fait à la féminité telle qu'elle est définie, en général, évidemment, par les hommes, vous pouvez vivre, votre vie relativement tranquillement, entre guillemets, parce qu'il y a forcément des épisodes de violence, y compris, par exemple, de violence symbolique ou de violence, d'ailleurs, qui ne sont pas si symboliques que ça. Mais disons qu'on a d'un côté l'aspect coercitif de domestication, de dressage, et puis, éventuellement, la punition quand il y a, évidemment, des femmes qui dérogent, et les femmes ont souvent dérogé aussi, parce qu'elles ont beaucoup résisté à ces systèmes. Et donc, on a des exemples très symboliques, en fait, de ces systèmes de punition. L'un des plus connus et celui qui démarre le livre, si j'ose dire, ce sont les grandes chasses aux sorcières du XVIIe siècle, par exemple.
Qu'on amène Sarah Osborne. Bien, Sarah Osborne. Sarah Good, ici présente, a avoué avoir pratiqué des envoûtements, ce qui lui évite la corde. Je vous en prie, suivez son exemple. Elle affirme que lorsque le démon est venu à elle, vous étiez en sa compagnie.
Oh, je les ai vus, comme vous et moi, le diable et elle. J'ai vu la Osborne signer le livre du démon et le signer de son propre sang. Oh,
messieurs les juges, de toute ma vie, j'ai jamais vu Satan. Pourtant, je sais danser et je valse plus vite à l'envers que lui à l'endroit.
Assise, je dis assise. Faites-la asseoir.
Lâchez-moi ! Ça suffit comme ça, les bêtises ! Ça suffit, ces inventions !
Il y a 10 commandements de Dieu. En savez-vous un seul ? Vous avez menti devant ce tribunal. Je dis que vous mentez à la cour. Est-ce la vérité ?
Je suis pas sorcière, moi ! Et le diable le sait, ça !
Salem 1692, La chasse aux sorcières, c'est le film de Nicolas Sittner qui date de 1996. Alors la figure de la sorcière, c'est quand même devenue une figure pop extrêmement convoquée par les féministes, mais même au-delà en fait des cercles féministes. Comment on peut aborder cette figure-là pour démontrer effectivement que la sorcière est peut-être une des premières figures de ce continuum féminicitaire dont vous parlez, Christelle Tarot?
Bah oui, déjà ça crée un malentendu. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, la sorcière est à la mode. Et donc, elle a un côté, elle est présentée comme une femme subversive.
Elle devient presque séduisante.
Etc. Mais ce qu'elle est en réalité dans la figure telle qu'elle est réappropriée, et elle est réappropriée depuis très longtemps, en particulier, comme vous l'avez dit, par les mouvements féministes, et pas seulement les mouvements féministes de la seconde vague. C'est-à-dire que quand on s'intéresse aux mouvements féministes de la première vague, c'est-à-dire ceux qui sont nés avec le 19e siècle, on voit qu'il y a déjà une réappropriation de la figure très importante. Mais la sorcière, c'est pas ça, en fait. La sorcière, c'est une construction fantasmatique. C'est une construction de la domination masculine et patriarcale. Et je souligne d'ores et déjà que la sorcière, telle que définie par eux, n'existe pas. Elle n'existe pas. Alors, qui sont les sorcières? Bon, les sorcières, ce sont toutes les femmes, potentiellement. Parce que lorsqu'on s'interroge sur cette catégorie, parfois on nous dit les sorcières sont des femmes âgées qui sont isolées. Bien sûr, il y a des femmes âgées isolées qui sont définies comme sorcières. On nous dit que ce sont des jeunes femmes qui sont tentatrices. Et on en a aussi. On nous dit que ce sont des femmes mariées qui ont commis, par exemple, l'adultère ou qui sont suspectées d'être adultères. Bah, ça aussi, on trouve. On nous dit que ce sont des femmes savantes. Des femmes qui ont des compétences, par exemple,
médicales,
dans les plantes, dans la médecine traditionnelle, dans la magie, etc. Et ça aussi, c'est vrai. Et enfin, on nous dit que ce sont des femmes puissantes, par exemple, des femmes qui ont des terres ou, en milieu urbain, qui exercent des métiers définis aujourd'hui comme masculins. Et donc, en réalité, quand on appose toutes ces catégories, eh ben, on se rend compte que potentiellement les sorcières, c'est toutes les femmes. Et c'est important de le préciser parce que lorsqu'on lit le Marteau des sorcières, qui est l'œuvre idéologique, l'architecture idéologique des grandes chasses aux sorcières, donc qui commence dans le second XVIe siècle et puis qui vont occuper pratiquement tout le XVIIe siècle, ben on se rend compte dans ce livre que ce qui est posé, en fait, c'est une haine des femmes, associée bien sûr à une peur des femmes, à une gynophobie tellement obsessionnelle qu'elle conduit effectivement à éradiquer un nombre très conséquent de femmes, donc dans ce long XVIIe siècle qu'on peut définir comme une longue nuit en fait pour les femmes européennes.
Et donc sans raison, parce qu'on l'a bien entendu hein, dans l'extrait, c'est-à-dire que la femme a beau se défendre de quelconque lien avec Satan ou de quelconque pratique, peu importe ce qu'elle va dire, c'est le fait d'être une femme en fait qui la condamne. Ce qui veut dire que dans cette chasse aux sorcières, pas besoin de fées, le fait même d'être une femme suffisait à être condamnée. Mais qu'est-ce qui justifiait néanmoins d'en chasser d'autres plus que d'autres, d'une certaine manière?
Précisément, en fait, on ne chasse pas une catégorie plus que l'autre. En fait, tout ça doit être évidemment contextualisé de manière extrêmement précise. Mais l'accusation de sorcellerie vous conduit bien sûr immédiatement à l'arrestation. L'arrestation conditionne immédiatement la pratique de la torture. Toutes les femmes, en fait, qui sont accusées d'être des sorcières sont violemment torturées. Alors, d'abord parce qu'on cherche évidemment un signe du pacte satanique, parce que précisément, on se rend compte en lisant les confessions des sorcières qu'elles s'accusent de tout et de n'importe quoi et que donc ce n'est pas crédible. Donc il faut précisément acter d'un signe qu'on peut prouver, évidemment, pour évidemment les conduire ensuite au bûcher, puisque c'est là qu'elles vont évidemment mourir la plupart d'entre elles. Donc on cherche la marque satanique, c'est-à-dire une marque concrète de ce pacte entre les femmes et Satan. Et ça, c'est la grande différence avec l'époque médiévale, au passage. C'est ce pacte satanique, c'est-à-dire le fait que les femmes sont, à partir de ce moment-là, perçues avant tout comme des créatures du diable.
Alors qu'au Moyen-Âge, quelle était la différence? Elles n'étaient considérées que comme des êtres inférieurs, mais sans marque avec le diable,
c'est ça ? En ce qui concerne les chasses aux sorcières, parce qu'il y en avait aussi, mais elles étaient beaucoup plus isolées, beaucoup plus individualisées, il y avait la question de la sorcellerie, qu'on retrouve d'ailleurs dans le procès de Jeanne d'Arc, dans l'acte d'accusation de Jeanne d'Arc. Donc là, nous sommes entre les deux périodes. Eh bien, on a l'accusation de sorcellerie, mais c'est une accusation qui n'est pas essentielle, en fait, à la condamnation de Jeanne d'Arc. À partir de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle, le pacte satanique, c'est fondamental. Donc, on cherche une marque. Et pour trouver la marque, on commence d'abord par raser les femmes. Ça, on le sait très peu, en fait, parce que l'iconographie associée aux chasses montre rarement des femmes rasées. C'est pour ça des femmes tondues. C'est pour ça, en fait, que j'ai voulu en reproduire une, en particulier une de ces images dans le livre. Et donc, cette association avec le mal, entre guillemets, qui conduit au fait de raser les femmes, vous conviendrez aussi qu'il y a des résonances dans l'histoire de France contemporaine intéressantes au moment, par exemple, de la libération en France. Donc, on les rase et puis on cherche dans leurs parties intimes, parce qu'évidemment, on s'imagine que c'est là que va trouver évidemment
la faute.
Et puis, évidemment, c'est là que Satan va se placer en priorité. Et donc, on va, par exemple, piquer les femmes avec de très grandes épingles pour trouver la marque. Et puis aussi parce qu'on pense que cette marque doit être insensible. Si elle est insensible, c'est la preuve, en fait, du pacte satanique. Donc, on voit que tout ça est quand même assez farfelu. Les confessions ne le sont pas moins, mais ça conduit irrémédiablement, en fait, la femme au bûcher ou à la pendaison. Hein, donc, c'est un régime de terreur, en fait, qui s'abat sur les femmes en Europe pendant, encore une fois, cette longue nuit des chasses aux sorcières et qui va provoquer un effroi durable, en fait, dans les populations féminines européennes.
Et pourquoi à ce moment-là? Pourquoi? Comment on explique? Est-ce que ça coïncide avec... Parce que la constante du féminicide, on en a parlé à travers l'histoire, elle a pris différentes formes. Mais là, pourquoi au XVIIe siècle, ça prend cette forme-là? Et alors, liée au diable, liée à la marque de Satan, mais pourquoi là? Il y a eu la naissance du capitalisme, il y a eu une réorganisation des sociétés, il y a eu un nouvel ordre juridique qui était mis en place.
Bah tout ça en fait. Alors il faut imaginer que pendant l'époque médiévale et jusqu'au médiéval tardif, les femmes ont contesté l'ordre patriarcal à plusieurs niveaux différents. Elles l'ont contesté sur le terrain de l'accaparement des terres. C'est ce que montrait bien, par exemple, Silvia Federici lorsqu'elle parle de la lutte menée par les paysans et donc aussi par les paysannes pour essayer de sauver leur commun. Alors que nous sommes dans une grande période de concentration et de captation des terres. On est bien sûr là dans un capitalisme foncier qui est en train de se construire incontestablement. Donc elles ont contesté ça. Elles ont contesté aussi le fait que le travail salarié ne devait être que masculin et qu'il y avait des métiers qui étaient essentiellement des métiers associés à la masculinité. Et d'ailleurs, on retrouve même dans la langue, ce que montre très bien Eliane Viennot dans le livre, dans la langue, à cette époque-là, il y avait des féminins pour des professions dites masculines aujourd'hui. Par exemple, médecin, on disait médecine. La médecine, c'était pas la discipline, c'était la femme qui pratiquait la médecine. Et puis, elles ont enfin contesté de manière assez vigoureuse le régime patriarcal dans la religion. C'est le grand moment aussi des hérésies, de la lutte contre les hérésies que mène évidemment l'Église catholique. Et parmi les mouvements hérétiques, on retrouve beaucoup de femmes qui contestent les dogmes masculinistes, qui refusent que l'apostolat leur soit interdit, qui ont une autre vision aussi de la sexualité du corps. Donc il y a eu une contestation assez importante, déjà premièrement. Donc il y a une volonté très ferme, alors que nous sommes en train de construire les sociétés modernes, de réaffirmer ce pouvoir masculin qui a été chahuté, disons, par toutes ces revendications féminines. Et ça se passe dans un moment très particulier, effectivement, parce que nous avons, un, la construction d'un premier capitalisme, qui est quand même déjà très offensif. Et puis deux, nous commençons aussi les expériences coloniales, les premières expériences coloniales. D'ailleurs, Salem, dont vous avez parlé tout à l'heure grâce à l'extrait, montre bien ça, c'est-à-dire l'exportation en fait des chasses aux sorcières européennes dans les Nouveaux Mondes, donc à travers ce fameux procès des sorcières de Salem. Donc en gros, ce qu'on peut dire, c'est que en Europe, les hommes veulent mettre au pas les femmes parce qu'ils ont des choses très importantes à faire et que les affaires de bonnes femmes, d'une certaine manière, doivent rester à leur juste place. Et donc, pendant très longtemps, on n'a pas connecté tout ça ensemble. Pourquoi ? Parce que dans le monde académique, vous savez, on travaille de manière très cloisonnée. On travaille dans nos disciplines, on travaille dans nos spécialités, dans nos sous-spécialités. Et on s'aperçoit en fait qu'on a beaucoup de difficultés à faire lien entre des choses qui ne sont pas naturellement liées d'une certaine manière. Moi, en tant que spécialiste de la colonisation, j'ai toujours été sidérée de voir le peu de discussions qu'il y avait. C'est moins le cas aujourd'hui, fort heureusement, mais qu'il y avait quand j'ai commencé à travailler sur ces questions dans les années 90, par exemple, entre les spécialistes de l'histoire coloniale et les spécialistes de l'histoire de l'immigration. Comme si c'était deux choses complètement différentes. Donc maintenant, on va connecter des choses. On va connecter, par exemple, des travaux qui portent sur la question des concentrations de terres avec la question des chasses aux sorcières, ce qu'on ne faisait pas précédemment. Et donc, on éclaire l'histoire, évidemment, de manière différente, ce qui permet aussi, bien sûr, parfois de revoir le récit national, mais aussi, bien sûr, le récit mondial.
Alors, vous l'avez dit, Christelle Tarot, vous êtes spécialiste de colonisation et justement, on va aborder la question du féminicide au prisme de la colonisation.
Monsieur Candy, à propos de cette histoire de la négresse dont vous m'avez parlé.
La négresse?
Oui, il me semble que vous avez dit qu'elle parle allemand.
Ah oui, il dit. Vous lui voulez quoi?
Est-ce qu'avant l'exhibition, vous pourriez l'envoyer dans ma chambre?
Oh, on court le guillotou. Je n'y vois pas d'obstacle. Steven, quand tu les auras bien installés dans leur chambre, tu me feras le plaisir d'aller chercher Hilda, la faire décroter, sentir bien bon et l'envoyer dans la chambre du docteur Schultz.
Écoutez, monsieur Candy, il y a un petit truc que je ne vous avais pas encore dit.
Quoi?
Il dit et dans l'étouffoir.
Qu'est-ce qu'elle fiche là-dedans?
Mais qu'est-ce que vous croyez qu'elle fiche là-dedans? Dans l'étouffoir? Elle est punie.
Qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle a encore fui, voilà.
Oh, Steven, bon sang. Ils ont été combien à fuir quand j'ai eu le dos tourné?
Deux.
Elle n'est pas trop charcutée par les chiens de Stone Cipher?
Non, 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 elle a eu de la chance. Elle est un peu amochée, mais elle s'est fait ça toute seule, hein, cette maudite négresse en courant dans les fourrés.
Mais elle est dans cet étouffoir depuis combien de temps?
Ben, à votre avis, elle y a été toute la sainte journée. Et elle a encore 10 jours à tirer, cette petite garce.
Bon, bien, tu la sors de là.
Que je la sors de là, pourquoi?
Parce que je te l'ai dit, voilà pourquoi. Le docteur Schultz est mon hôte. Il dit et ma négresse et l'hospitalité du Sud m'impose de la mettre à sa disposition.
Bien, monsieur. Vous avez attendu, monsieur? Allez, sortez-moi sa couette de là.
Django Unchained de Quentin Tarantino, le film de 2012. On entend très bien dans cette scène Christelle Tarot, le propriétaire Calvin Candy demandait à son majordome de libérer l'esclave Hildy pour en faire profiter son invité. C'est une question que vous avez travaillée dans votre livre « Féminicide, une histoire mondiale ». C'est là une des réalités, un des moments de l'histoire où cette question du féminicide apparaît de manière extrêmement frappante.
Absolument. Alors, ça remonte à plus loin, en fait, parce que dès l'origine, on comprend bien que les femmes ne s'appartiennent pas en propre. Les femmes sont des extensions d'autre chose. Elles sont les extensions des paterfamilias dans les familles élargies, dans les parentalités élargies. Elles sont des extensions de leur communauté. Elles sont des extensions de leur nation, éventuellement, effectivement, entre guillemets, de leur race, dans les contextes comme celui que vous évoquez, qui est celui, évidemment, des États-Unis du Sud. Donc, à travers cette question de l'esclavage et de la colonisation, puisque, en fait, nous savons que les deux choses sont quand même extrêmement liées. On voit bien effectivement que les femmes esclaves, et c'est valable depuis quasiment toujours et partout, n'ont pas la propriété sur leur propre corps, puisque la propriété sur leur propre corps appartient à d'autres. Et que ça veut dire effectivement non seulement travailler comme des bêtes de somme, et je signale que souvent les femmes travaillent autant que les hommes, mais il y a en plus, si j'ose dire, la question sexuelle et reproductive. Les hommes esclaves peuvent subir des violences sexuelles, c'est incontestable, mais c'est extrêmement minoritaire. En général, c'est pour briser leur identité virile, ce que d'ailleurs feront de manière très 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 systématique les propriétaires d'esclaves. Mais évidemment, les individus qui subissent le plus la violence sexuelle, ce sont les femmes. Et ça commence dès le départ, c'est-à-dire dès qu'on quitte les zones de captivité sur le continent africain et qu'on monte sur un bateau qui va vous conduire vers les Amériques, eh bien, vous savez déjà que les hommes et les femmes sont séparés et que tous les encadrants sur le bateau, les officiers, les sous-officiers, choisissent leur, entre guillemets, compagne pour le voyage, et qu'il s'agit, que ça participe de la fabrication de l'esclave. Parce que sur le bateau, en fait, on n'est pas encore esclave puisqu'on n'a pas été véritablement vendu à un propriétaire. Il faut attendre les arrivées sur les marchés aux esclaves, évidemment des Amériques, où là on change de statut. Mais entre-temps, on a ce moment assez long ou qu'on va utiliser pour dresser en fait les individus à être esclaves. Et pour les femmes, le dressage passe effectivement par la violence sexuelle, par le viol, comme le raconte par exemple très bien dans le livre Marie Scondé, quand elle évoque la figure de Tituba, qui nous ramène d'ailleurs au procès de Salem. Et elle dit bien que Tituba, c'est une enfant du viol, et que le viol a eu lieu, sa mère a été violée sur le bateau qui la conduisait en fait de l'Afrique aux Amériques. Hein, donc ça, c'est très important. Et donc toute la partie 2 est irriguée en fait par ça, par cette violence, là pour le coup, qui est totalement systémique, la violence sexuelle systémique.
Ça fait partie du dispositif d'esclavagisation des personnes, des esclaves.
Et en particulier des femmes. Et s'ajoute à ça le problème de la reproduction. Parce que dans les premiers temps de l'esclavage, la reproduction biologique n'était pas très importante pour les propriétaires d'esclaves, parce qu'ils savaient que la main-d'œuvre arrivait de manière extrêmement importante du continent africain. Mais au XIXe siècle, lorsque la traite s'arrête, on va être assez vite confronté au fait que si on ne peut plus importer des esclaves, il faut les produire vraiment in situ, et les produire in situ de manière beaucoup plus importante. Et là encore, pour des raisons évidentes, les femmes se retrouvent au cœur du processus, et on va de ce fait systématiser l'esclavage héréditaire et faire porter aux femmes un poids terrible.
De mettre au monde des esclaves, des êtres
absolument
destinés à
dans le système dans le système d'esclavisation, par exemple états-unien, mais c'est aussi le cas au Brésil, au Venezuela, donc dans tous les grands pays américains où l'esclavage est très important, où l'esclavage est vraiment structurel dans les sociétés, eh bien, on fait porter la responsabilité de l'esclavage, non pas aux esclavagistes, mais aux femmes esclaves. Ce qui explique que certaines d'entre elles vont répliquer d'une manière terrible, par exemple par l'infanticide. On a un certain nombre de cas, parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement que de donner naissance à des enfants, mais elles les tuent immédiatement parce qu'elles ne peuvent pas supporter de donner naissance à des enfants qui ne seront pas libres.
Donc se met en place en fait un système à la fois de production, c'est-à-dire que les esclaves doivent travailler sur la terre, doivent vraiment mettre leur corps à disposition comme une force de travail, mais aussi comme une mise en œuvre en fait d'un système de reproduction. C'est un ordre productif et reproductif à la fois.
Absolument. Et du coup, les femmes sont tout à fait au cœur de ce processus, encore une fois. Et alors que dans les périodes précédentes, donc, qui sont quand même assez longues, hein, puisque évidemment les systèmes esclavagistes s'installent dès le début de l'époque moderne, avec les premières colonisations européennes, notamment donc dans ces nouveaux mondes américains, finalement, les femmes, la reproduction des femmes bon, pouvait être importante, mais n'était pas considérée comme centrale. Alors que, évidemment, à partir du XIXe siècle, on va être très attentif à la fertilité des femmes. On va évidemment essayer qu'elles soient le plus souvent possible enceintes pour pouvoir produire énormément de main-d'œuvre. Et donc là, on imagine ce que ça peut être pour une femme de donner naissance, je ne sais pas, à 5, 7, 10 enfants qui lui seront d'ailleurs immédiatement arrachés, puisque évidemment, les enfants sont un capital très important. Donc on peut garder les enfants sur les plantations ou on peut les vendre. Et donc, on ne peut pas faire famille non plus. Et ça pose aussi la question de la maternité, des femmes esclaves, puis ensuite des femmes affranchies. C'est une question très importante, y compris en Corse. Ça travaille de manière très profonde toute une série de sociétés qui ont été esclavagistes, aussi bien d'ailleurs, par exemple, aux États-Unis que dans les Antilles françaises. Enfin, on a des questionnements comme ça qui sont évidemment très intéressants.
Et puis, il y a aussi l'imaginaire. Alors, il y a toujours, on voit bien, entre la sorcière, en fait, et l'esclave sexuel, on voit bien, ou reproductrice, on voit bien qu'il y a le lien de la sexualité et l'imaginaire, en fait, de la femme exotique, de la femme indigène, qui vient aussi irriguer, en fait, non pas seulement cet ordre sexuel, productif et reproductif, mais en fait, qui vient nourrir, en tout cas, fonder ce continuum féminicidaire.
Oui, alors évidemment, cette question travaille de manière importante non seulement les pratiques, mais aussi les imaginaires. Les imaginaires sont mis au service, évidemment, de cette vision en même temps archétypale et en même temps réelle, parce que la domination, elle est réelle, comme on l'a montré. Et il y a dans le livre de nombreux exemples. En particulier, je pense au récit intime d'un contremaître sur une plantation qui, c'est une source extraordinaire d'ailleurs, qui va toute sa vie durant noter les relations sexuelles qu'il impose à toutes les femmes esclaves sur lesquelles il a du pouvoir dans cette fameuse plantation qui se trouve en fait à la Jamaïque. Donc c'est évidemment une composante tout à fait essentielle de la domination, et bien sûr que c'est connecté à des imaginaires qui sont des imaginaires de possession. Ensuite vont évidemment ces imaginaires de possession être connectés avec des crimes de propriétaire, puisque rappelons quand même que le féminicide est avant tout un crime de propriétaire, et c'est ce qu'on voit très bien encore aujourd'hui lorsqu'on s'intéresse aux arguments que sont...
D'un homme qui a tué sa femme, par exemple, en disant « c'était ma propriété, elle voulait partir et je ne le supportais pas ».
Absolument, c'est ce qu'ils disent. Ils disent « elle m'appartient, c'est ma chose, elle a voulu me retirer mes enfants ». On voit qu'à chaque fois, on utilise le possessif.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le croisement aussi avec ce que vous disiez à propos des sorcières, sur la mise en place en fait, de cet ordre économique capitaliste où effectivement, il y a un processus de propriétarisation, je ne sais pas comment le dire, qui se met en place. Donc, les femmes deviennent une propriété. Donc, sur une propriété, on a le droit de vie ou de mort, c'est ça ?
Absolument. Mais en fait, sur la longue durée, on voit d'abord que les femmes sont des extensions. Et probablement, les femmes sont sans doute les premières captives. Évidemment, ça s'est tout à fait documenté. Et sans doute aussi les premières esclaves de l'histoire de l'humanité. Parce que lorsque, autant très anciens, deux groupes rentrent en conflit, que se passe-t-il ? En général, le groupe qui a la victoire commence par tuer tous les hommes et ne conserve en fait que les femmes et les enfants en bas âge. Donc les femmes et les enfants font partie du butin et vont être incorporés plus ou moins d'ailleurs à la société, au groupe victorieux. Et puis, plus les sociétés se complexifient, bien évidemment, plus elles vont rendre subtil leur système hiérarchique sur la même base, bien évidemment, mais elles vont complexifier leur système hiérarchique, et elles vont aussi transformer, non pas en essence, mais sur la forme, évidemment, les visages que vont prendre la domination. Et donc, on va passer de l'extension à la possession, et puis de la possession à la propriété. Et tout ça, évidemment, fait l'objet...
Et aujourd'hui, on en est encore à la propriété.
Et on est toujours à la propriété, puisque le système capitaliste a triomphé à l'échelle internationale. Et que donc, nous sommes dans le monde des choses, et dans le monde des choses, il y a aussi les femmes.
Voilà. feignasse, tu viens, on va faire du shopping.
Regina, c'était la poupée Barbie que je n'avais jamais eue. J'étais fascinée par son incroyable beauté.
Alors, qu'est-ce que tu penses, Dulce ?
Sympa. Je vais peut-être m'inscrire au mathlétique.
Non,
t'es dingue ou quoi ? Tu veux finir ta vie seule dans une cave ? Qu'est-ce que tu ferais si on n'était pas là pour sauver ta réputation ?
Vous avez vu les hanches que j'ai ?
Arrête, moi c'est mes mollets, on dirait des poteaux.
Vous au moins vous êtes fine en haut, moi j'ai des épaules de camionneur.
Je pensais qu'on était ou trop grosse ou trop maigre. Mais visiblement, on peut avoir tout un tas d'autres défauts.
Mes cheveux n'ont aucune tenue.
J'ai la peau toute huileuse.
Moi j'ai le petit doigt de travers.
J'ai une haleine abominable le matin.
Quelle horreur. Oh, l'album, je l'avais complètement oublié.
Oh, ça doit faire 200 ans que je l'ai pas ouvert.
Tiens, viens voir Kitty. C'est le musée des monstres. On découpe les photos des filles dans l'annuaire du lycée et on rajoute des commentaires. Trongpak est une pouffe cradingue qui pue.
Toujours vrai.
Dawn Schweitzer est une grosse truie-pucelle.
Ça, c'est à moitié vrai.
Lolita, malgré moi, je ne connais pas ce film, mais vraiment cet extrait donne plus envie de pleurer que de rire. C'est un film qui date de 2004, c'est un film de Mark Waters. Donc on entend Caddy qui arrive dans un nouveau lycée, qui réussit à s'intégrer dans le groupe des filles populaires, le fameux groupe des filles populaires, Gretchen, Karen et donc Regina. Et on entend dans cet extrait, il faut relooker Caddy et on voit bien qu'elles disent du mal des autres filles. Non seulement ces jeunes filles se sentent mal dans leur peau, mais elles détestent les autres filles parce qu'elles les trouvent moches, elles ne correspondent pas à des injonctions. Et ces injonctions esthétiques de minceur, de taille des mollets, de cheveux raplapla, de volume des cheveux, vous le faites rentrer dans ce continuum féministère dont on parle depuis le début de cette émission comme autant d'injonctions en fait qui usent et même conduisent les femmes à la mort.
Oui, alors c'est une partie que j'aime beaucoup et dont on me fait rarement parler, donc je suis très très contente de pouvoir l'évoquer. C'est une partie qui va en fait des normes de beauté jusqu'aux mutilations, etc., diverses et variées. Et donc oui, effectivement, par exemple, le culte de la minceur dans nos sociétés européennes d'aujourd'hui, d'abord, n'est pas un invariant. C'est-à-dire qu'il n'a pas toujours été dit que les femmes devaient être non seulement minces, mais extra minces. Mais nous savons aussi que cette minceur extrême, elle conduit non seulement à des pathologies très graves, des troubles alimentaires qui concernent quand même beaucoup de femmes en Occident, à ces effets yo-yo permanents, je suis au régime et puis donc je ne mange rien, ou une feuille de salade et trois tomates, et puis ensuite je vais au contraire, parce que j'ai été affamée pendant plusieurs mois, tomber dans l'extrême inverse, et donc devenir prendre tout d'un coup 10 kilos de plus. Donc ça a des effets très concrets sur de très nombreuses femmes. Et ça conduit aussi, en particulier chez les plus jeunes, qui sont très impactés. Et là, vous parlez de Lolita, donc c'est précisément cette catégorie
malgré
de la population féminine. Hein, donc des très jeunes filles, parfois des préadolescentes, qui vont cesser de manger, ce qui peut effectivement les conduire à mourir, en particulier, évidemment, au travers de la question de l'anorexie mentale, qui est une vraie question dans nos sociétés, qui n'est pas du tout anecdotique et qui est quand même le produit de l'injonction de beauté, qui consiste à dire que si vous n'êtes pas, vous faites pas 1m75 et 45 kilos, vous êtes grosse et donc vous êtes laide.
Et ce qui est frappant, c'est que quand on est par exemple anorexique, ça va être traité comme un problème individuel. Une personne va aller être traitée, être suivie pour son anorexie comme un individu singulier avec un parcours qui ne tient qu'à elle. Et finalement, en fait, jamais comme cette souffrance n'est jamais traitée comme le produit en fait d'un ordre socio-culturel. Ou alors, est-ce que peut-être c'est en train de changer ? Je ne sais pas.
Je ne crois pas malheureusement. Et donc là, justement, dans le livre, on a une analyse féministe de l'anorexie. Parce que encore une fois, on peut sauver individuellement des gens, mais on règle pas le problème sociétal. Et donc pour régler le problème sociétal, il faut en comprendre évidemment les causes profondes. Et notons que les normes de beauté, non seulement ont varié dans le temps, mais que les violences qui sont faites aux femmes de ce point de vue-là sont aussi extrêmement diverses. Au XIXe siècle, dans la grande majorité des pays européens, il fallait avoir un tour de taille de 50 cm. Et pour ça, on corsetait les femmes d'une telle manière que, par exemple, dans les milieux aisés, associée d'ailleurs à l'oisiveté. Les femmes n'ont jamais été oisives ni dans ces milieux ni dans d'autres. Elles s'évanouissaient tout le temps et ça confortait bien évidemment le stéréotype de la nature fragile, etc. Mais enfin, quand vous êtes corsetée au point que vous ne pouvez plus respirer parce que vos poumons sont totalement compressés, bah, dès que vous avez une émotion, en particulier une émotion intense, effectivement, vous tournez de l'œil. Mais moi, j'aimerais qu'on m'explique, si on corsetait les hommes pour qu'ils aient des tailles de 50 cm, si eux-mêmes ne s'évanouiraient pas au moindre effort un peu intensif ou à la moindre émotion un peu importante.
Mais ça, il faut parler des hommes, Christelle Tarot, parce que eux aussi, en fait, subissent des injonctions esthétiques. Eux aussi, en fait, ont des rôles à jouer en tant que dominants. Eux aussi, en fait, participent à ce système sans être forcément conscient ou d'accord pour le faire. Est-ce que vous faites une place dans ces travaux, dans ce livre-là, à cette intériorisation par les hommes d'un système auquel ils participent sans forcément le vouloir, ou si on leur mettait sous les yeux, dirait c'est impossible.
Alors oui, bien sûr. Non seulement on parle de ça, mais les hommes sont très présents dans ce livre. Hein. Ils sont pas majoritaires, mais ils sont très présents. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont en fait d'accord avec le projet politique de sortie du patriarcat. Donc il n'y a aucune raison de se priver de leur analyse. Et puis par ailleurs, évidemment, c'est un problème que nous devons régler ensemble, puisque l'humanité est constituée de femmes et d'hommes. Donc évidemment, il ne s'agit pas ni d'exclure les hommes, ni de leur faire la guerre. Ce qui n'a évidemment aucun sens. Donc bien sûr, les hommes participent à cette conversation, mais n'oublions pas quand même que ce sont eux les privilégiés. Et que, comme le dit très bien Rita Laura Segato en conclusion du livre, le problème essentiel auquel sont confrontés les hommes, individuellement et collectivement, c'est veulent-ils ou ne veulent-ils pas sortir de ce qu'elle appelle le mandat masculin. Le mandat masculin, c'est en même temps de la coercition, du dressage, de la domestication. D'abord, on le sait parce que les hommes n'ont pas été des hommes de la même manière tout le temps dans l'histoire et partout. Donc il y a des modèles de virilité, par exemple, qui évoluent. Et il y a de la coercition, évidemment, pour les obliger à être les hommes qu'on attend qu'ils soient, bien sûr. Mais il y a aussi, vous voyez, le bâton d'un côté et puis la carotte de l'autre. Le privilège qui est associé à la masculinité. Et ce privilège, il est quand même exorbitant, en fait. Même dans nos sociétés aujourd'hui qui sont des sociétés plus égalitaires, ce privilège reste exorbitant. Et bien sûr, si on peut accepter assez facilement de renoncer à la coercition, parce qu'on l'a subi, renoncer au privilège, c'est plus difficile. Or, on ne peut pas régler le problème si on ne renonce pas, évidemment, et à la coercition. Bon, ça c'est... Encore une fois, c'est facile, mais surtout au privilège. Donc, évidemment, les hommes sont dans la conversation, mais ils doivent aussi faire une part de chemin pour que nous puissions construire ensemble un monde plus respirable pour toutes et tous.
Merci beaucoup Christelle Tarot. On peut donc lire l'ouvrage que vous avez dirigé, Féminicide, une histoire mondiale, paru aux éditions La Découverte. Et puis de vous aussi, Idées reçues sur la colonisation, puisqu'on en a parlé et que c'est d'abord votre terrain de recherche. La France et le monde, 16e, 21e siècle, aux éditions Le Cavalier Bleu. Merci beaucoup.
Merci.
Elle lui promet que c'était la dernière. Et elle ramasse ses affaires pour une envie si humaine d'avoir voulu être libre. Et c'était pas la première. La première crise, si sur eux tu ne lèves jamais la main, tu seras un très bon père et meilleur sera demain. Et de mieux en mieux, évidemment que ce sera de mieux en mieux. Un jour ce sera joyeux, mais en attendant de subir le feu.
Et merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troiano, Cyril Marchand, Lord à l'Est, réalisation Nicolas Berger, prise de son Alex Dang. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, sur le site de France Culture à la page de Sans Oser le Demander ou encore sur l'application Radio France.